En ce moment, des lupeaux recevaient au secrétariat du Bruel, à la suite duquel Dutoc s'était mis. Des lupeaux avaient appris par son valet de chambre la mort de M. de la Billardière et voulaient plaire aux deux ministres en faisant paraître le soir même un article nécrologique. « Bonjour, mon cher du Bruel, » dit le demi-ministre au sous-chef en le voyant entrer et le laissant debout. « Vous savez la nouvelle ? La Billardière est mort. Les deux ministres étaient présents quand il a été administré. » Le bonhomme a fortement recommandé Rabourdin, disant qu'il mourrait bien malheureux s'il ne savait pas avoir pour successeur celui qui constamment avait rempli sa place. Il paraît que l'agonie est une question où l'on avoue tout. Le ministre s'est d'autant plus engagé que son intention, comme celle du conseil, est de récompenser les nombreux services de M. Rabourdin. Il hoche la tête. Le conseil d'État réclame ses lumières. On dit que M. de la Billardière quitte la division du défunt son père et passe à la commission du sceau. C'est comme si le roi lui faisait un cadeau de 100 000 francs. La place est comme une charge de notaire et peut se vendre. Cette nouvelle réjouira votre division car on pouvait croire que Benjamin y serait placé. Du Bruel, il faudrait brocher 10 ou 12 lignes en manière de fait Paris sur le bonhomme. Leurs excellences y jetteront un coup d'œil. Il lit les journaux. Savez-vous la vie du papa la Billardière ? Du Bruel fit un geste pour accuser son ignorance. « Non, » reprit des lupeaux. « Eh bien, il a été mêlé aux affaires de la Vendée. Il était l'un des confidents du feu roi. Comme monsieur le comte de Fontaine, il n'a jamais voulu transiger avec le premier consul. Il a un peu chouanné. C'est né en Bretagne d'une famille parlementaire si jeune qu'il a été anobli par Louis XVIII. Quel âge avait-il ? N'importe. Arrangez bien ça. » La loyauté qui ne s'est jamais démentie, une religion éclairée, le pauvre bonhomme avait pour manie de ne jamais mettre le pied dans une église. Donnez-lui du pieux serviteur, amenez gentiment qu'il a pu chanter le cantique de Siméon à l'avènement de Charles X. Le comte d'Artois estimait beaucoup la Billardière, car il a coopéré malheureusement à l'affaire de Quiberon et a tout pris sur lui. Vous savez, la Billardière a justifié le roi dans une brochure publiée en réponse à une impertinente histoire de la Révolution faite par un journaliste. Vous pouvez donc appuyer sur le dévouement. Enfin, pesez bien vos mots afin que les autres journaux ne se moquent pas de nous et apportez-moi l'article. Vous étiez hier chez Rabourdin ? Oui, monseigneur, dit du Bruel. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal, répondit en riant des lupeaux. Sa femme était délicieusement belle, reprit du Bruel. Il n'y a pas deux femmes pareilles dans Paris. Il y en a d'aussi spirituelles qu'elles, mais il n'y en a pas de si gracieusement spirituelles. Une femme peut être plus belle que Célestine, mais il est difficile qu'elle soit si variée dans sa beauté. Madame Rabourdin est bien supérieure à Madame Colville, dit le vaudevilliste en se rappelant l'aventure de des lupeaux. Flavie doit ce qu'elle est au commerce des hommes, tandis que Madame Rabourdin est tout par elle-même. Elle sait tout. Il ne faudrait pas se dire un secret en latin devant elle. Si j'avais une femme semblable, je croirais pouvoir parvenir à tout. Vous avez plus d'esprit qu'il n'est permis à un auteur d'en avoir, répondit des lupeaux avec un mouvement de vanité. Puis il se détourna pour apercevoir Dutoc et lui dit « Ah bonjour Dutoc, je vous ai fait demander pour vous prier de me prêter votre charlet. S'il est complet, la comtesse ne connaît rien de charlet. » Du Bruel se retira. « Pourquoi venez-vous sans être appelé ?» dit durement des lupeaux à Dutoc quand ils furent seuls. « L'État est-il en péril pour venir me trouver à 10 heures au moment où je vais déjeuner avec son Excellence ?»« Peut-être, monsieur, » dit Dutoc, « si j'avais eu l'honneur de vous voir ce matin, vous n'auriez sans doute pas fait l'éloge du sieur Rabourdin après avoir vu le vôtre tracé par lui. » Dutoc ouvrit sa redingote, prit un cahier de papier moulé sur ses côtes gauches et le posa sur le bureau de des lupeaux à un endroit marqué. Puis il alla pousser le verrou, craignant une explosion. Voici ce que lut le secrétaire général à son article pendant que Dutoc fermait la porte. Monsieur des lupeaux, un gouvernement se déconsidère en employant ostensiblement un tel homme qui a sa spécialité dans la police diplomatique. On peut opposer ce personnage avec succès aux flibustiers politiques des autres cabinets. Ce serait dommage de l'employer à la police intérieure. Il est au-dessus de l'espion vulgaire, il comprend un plan, il saurait mener à bien une infamie nécessaire et savamment couvrir sa retraite. Des lupeaux étaient succinctement analysés en 5 ou 6 phrases, la quintessence du portrait biographique placé au commencement de cette histoire. Au premier mot, le secrétaire général se sentit jugé par un homme plus fort que lui, mais il voulut se réserver d'examiner ce travail qui allait loin et haut sans livrer ses secrets à un homme comme Dutocq. Des Lupeaulx montra donc à l'espion un visage calme et grave. Le secrétaire général, comme les avoués et les magistrats, comme les diplomates et tous ceux qui sont obligés de fouiller le cœur humain, ne s'étonnait plus de rien. Rompu aux trahisons, aux ruses de la haine, aux pièges, il pouvait recevoir dans le dos une blessure sans que son visage en parlât. « Comment vous êtes-vous procuré cette pièce ?» Dutocq raconta sa bonne fortune. En l'écoutant, la figure de Delupeaux ne témoignait aucune approbation. Aussi, l'espion finit-il en grande crainte le récit qu'il avait commencé triomphalement. « Dutocq, vous avez mis le doigt entre l'écorce et l'arbre, » répondit sèchement le secrétaire général. « Si vous ne voulez pas vous faire de très puissants ennemis, gardez le plus profond secret sur ceci, qui est un travail de la plus haute importance et à moi connu. » Delupeaux renvoya Dutocq par un de ces regards qui sont plus expressifs que la parole. Ah, ce scélérat de Rabourdin s'en mêle aussi, se disait Dutocq, épouvanté de trouver un rival dans son chef. Il est dans l'état-major quand je suis à pied. Je ne l'aurais pas cru. À tous ces motifs d'aversion contre Rabourdin se joignit la jalousie de l'homme de métier contre un confrère, un des plus violents ingrédients de haine. Quand Delupeaux fut seul, il tomba dans une étrange méditation. De quel pouvoir Rabourdin était-il l'instrument? Fallait-il profiter de ce singulier document pour le perdre ou s'en armer pour réussir auprès de sa femme? Ce mystère fut tout obscur pour Delupeaux, qui parcourait avec effroi les pages de cet état où les hommes de sa connaissance étaient jugés avec une profondeur inouïe. Il admirait Rabourdin tout en se sentant blessé au cœur par lui. L'heure du déjeuner surprit Delupeaux dans sa lecture. « Monseigneur va vous attendre si vous ne descendez pas, » vint lui dire le valet de chambre du ministre. Le ministre déjeunait avec sa femme, ses enfants et Delupeaux sans domestique. Le repas du matin est le seul moment d'intimité que les hommes d'État peuvent conquérir sur le mouvement de leurs dévorantes affaires. Mais malgré les ingénieuses barrières par lesquelles ils défendent cette heure de causerie intime et de laisser-aller donnée à leur famille et à leurs affections, beaucoup de grands et de petits savent les franchir. Les affaires viennent souvent, comme en ce moment, se jeter à travers leur joie. Je croyais Rabourdin un homme au-dessus des employés ordinaires, et le voilà qui, 10 minutes après la mort de la billardaire, invente de me faire parvenir par la Brière un vrai billet de théâtre. « Tenez, » dit le ministre à Delupeaux, en lui donnant un papier qu'il roulait entre ses doigts. Trop noble pour songer au sens honteux que la mort de M. Labillardère prêtait à sa lettre, Rabourdin ne l'avait pas retiré des mains de la Brière en apprenant par lui la nouvelle. Delupeaux lut ce qui suit. « Monseigneur, si 23 ans de services irréprochables peuvent mériter une faveur, je supplie votre excellence de m'accorder une audience aujourd'hui même. Il s'agit d'une affaire où mon honneur se trouve engagé. Suivez les formules de respect. » « Pauvre homme, » dit Delupeaux avec un ton de compassion qui laissa le ministre dans son erreur. « Nous sommes entre nous, faites-le venir. Vous avez conseil après la chambre et votre excellence doit aujourd'hui répondre à l'opposition. » « Il n'y a pas d'autre heure où vous puissiez le recevoir. » Delupeaux se leva, demanda l'huissier, lui dit un mot et revint s'asseoir à table. « Je l'ajourne au dessert, » dit-il. Comme tous les ministres de la Restauration, le ministre était un homme sans jeunesse. La charte concédée par Louis XVIII avait le défaut de lier les mains au roi en les forçant à livrer les destinées du pays au quadragénaire de la Chambre des députés et au septuagénaire de la pairie. De les dépouiller du droit de saisir un homme de talent politique là où il était, malgré sa jeunesse ou malgré la pauvreté de sa condition. Napoléon seul put employer les jeunes gens à son choix sans être arrêté par aucune considération. Aussi, depuis la chute de cette grande volonté, l'énergie avait-elle déserté le pouvoir? Or, faire succéder la mollesse à la vigueur est un contraste plus dangereux en France qu'en tout autre pays. En général, les ministres arrivés vieux ont été médiocres, tandis que les ministres pris jeunes ont été l'honneur des monarchies européennes et des républiques où ils dirigèrent les affaires. Le monde retentissait encore de la lutte de Pitt et de Napoléon, deux hommes qui conduisirent la politique à l'âge où les Henri de Navarre, les Richelieu, les Mazarin, les Colbert, les Louvois, les d'Orange, les Guise, les Larovert, les Machiavel, enfin tous les grands hommes connus partis d'en bas ou nés aux environs des trônes, commencèrent à gouverner des États. La Convention, modèle d'énergie, fut composée en grande partie de têtes jeunes. Aucun souverain ne doit oublier qu'elle sut opposer 14 armées à l'Europe. Sa politique, si fatale aux yeux de ceux qui tiennent pour le pouvoir dit absolu, n'en était pas moins dictée par les vrais principes de la monarchie, car elle se conduisit comme un grand roi. Après 10 ou 12 années de lutte parlementaire, après avoir ressassé la politique et s'y être harassé, ce ministre avait été véritablement intronisé par un parti qui le considérait comme son homme d'affaires. Heureusement pour lui-même, il approchait plus de 60 ans que de 50, s'il avait conservé quelque vigueur juvénile, il aurait été promptement brisé. Mais habitué à rompre, à faire retraite, à revenir à la charge, il pouvait se laisser frapper tour à tour par son parti, par l'opposition, par la cour, par le clergé, en leur opposant la force d'inertie d'une matière à la fois molle et consistante. Enfin, il avait les bénéfices de son malheur. Gêné dans 1000 questions de gouvernement, comme est le jugement d'un vieil avocat après avoir tout plaidé, son esprit ne possédait plus ce vif que gardent les esprits solitaires, ni cette prompte décision des gens accoutumés de bonne heure à l'action et qui se distingue chez les jeunes militaires. Pouvait-il en être autrement? Il avait constamment chicané au lieu de juger, il avait critiqué les effets sans assister aux causes, il avait surtout la tête pleine des 1000 réformes qu'un parti lance à son chef, des programmes que les intérêts privés apportent à un orateur d'avenir, en l'embarrassant de plans et de conseils inexécutables. Loin d'arriver frais, il était arrivé fatigué de ses marches et contre-marches. Puis, en prenant position sur la sommité tant désirée, il s'y était accroché à 1000 buissons épineux, il y avait trouvé 1000 volontés contraires à concilier. Si les hommes d'État de la Restauration avaient pu suivre leurs propres idées, leur capacité serait sans doute moins exposée à la critique. Mais si leurs vouloirs furent entraînés, leur âge les sauva en ne leur permettant plus de déployer cette résistance qu'on sait opposer au début de la vie à ces intrigues à la fois basses et élevées qui vainquirent quelquefois Richelieu et auxquelles, dans une sphère moins élevée, Rabourdin allait se prendre. Après les tiraillements de leur première lutte, ces gens, moins vieux que vieillis, eurent les tiraillements ministériels. Ainsi, leurs yeux se troublaient déjà quand il fallait la perspicacité de l'aigle, leur esprit était lassé quand il fallait redoubler de verve. Le ministre à qui Rabourdin voulait se confier entendait journellement des hommes d'une incontestable supériorité, lui exposant les théories les plus ingénieuses, applicables ou inapplicables aux affaires de la France. Ces gens, à qui les difficultés de la politique générale étaient cachées, assaillaient ce ministre au retour d'une bataille parlementaire, d'une lutte avec les secrètes imbécilités de la cour, ou à la veille d'un combat avec l'esprit public, ou le lendemain d'une question diplomatique qui avait déchiré le conseil en 3 opinions. Dans cette situation, un homme d'État tient naturellement un bâillement tout prêt, au service de la première phrase où il s'agit de mieux ordonner la chose publique. Il ne se faisait pas alors de dîner où les plus audacieux spéculateurs ou les hommes des coulisses financières et politiques ne résumassent en un mot profond les opinions de la bourse et de la banque, celles surprises à la diplomatie et les plans que comportait la situation de l'Europe. Le ministre avait d'ailleurs, en Délupeau et son secrétaire particulier, un petit conseil pour ruminer cette nourriture, pour contrôler et analyser les intérêts qui parlaient par tant de voix habiles. En effet, son malheur, qui sera celui de tous les ministres sexagénaires, était de biaiser avec toutes les difficultés, avec le journalisme, que l'on voulait en ce moment amortir sourdement au lieu de l'abattre franchement, avec la question financière, comme avec les questions d'industrie, avec le clergé, comme avec la question des biens nationaux, avec le libéralisme, comme avec la Chambre. Après avoir tourné le pouvoir en 7 ans, le ministre croyait pouvoir tourner ainsi toutes les questions. Il est si naturel de vouloir se maintenir par les moyens qui servirent à s'élever que nul n'osait blâmer un système inventé par la médiocrité pour plaire à des esprits médiocres. La Restauration, de même que la Révolution polonaise, ont su montrer aux nations comme aux princes ce que vaut un homme et ce qui arrive quand il leur manque. Le dernier et le plus grand défaut des hommes d'État de la Restauration fut leur honnêteté dans une lutte où leurs adversaires employaient toutes les ressources de la friponnerie politique. Le mensonge et les calomnies, en déchaînant contre eux par les moyens les plus subversifs, les masses inintelligentes, habiles seulement à comprendre le désordre. Rabourdin s'était dit tout cela, mais il venait de se décider à jouer le tout pour le tout comme un homme qui, lassé par le jeu, ne s'accorde plus qu'un coup. Or, le hasard lui donnait un tricheur pour adversaire, en la personne de Délupeau. Néanmoins, quelle que fût sa sagacité, le chef de bureau, plus savant en administration qu'en optique parlementaire, n'imaginait pas toute la vérité. Il ne savait pas que le grand travail qui avait rempli sa vie allait devenir une théorie pour le ministre et qu'il était impossible à l'homme d'État de ne pas le confondre avec les novateurs du dessert, avec les causeurs du coin du feu. Au moment où le ministre debout, au lieu de penser à Rabourdin, songeait à François Keller et n'était retenu que par sa femme qui lui offrait une grappe de raisin, le chef de bureau fut annoncé par l'huissier. Des Lupeaulx avait bien compté sur la disposition où devait être le ministre préoccupé de ses improvisations. Aussi, voyant l'homme d'État aux prises avec sa femme, alla-t-il au devant de Rabourdin et le foudroya-t-il par sa première phrase. « Son Excellence et moi nous sommes instruits de ce qui vous préoccupe, » dit des Lupeaulx, « et vous n'avez rien à craindre, » baissant la voix, « ni de Dutoc, » reprenant sa voix ordinaire, « ni de qui que ce soit. » « Ne vous tourmentez point, Rabourdin, lui dit son Excellence avec bonté, mais en faisant un mouvement de retraite. » Rabourdin s'avança respectueusement et le ministre ne put l'éviter. « Votre Excellence daignerait-elle me permettre de lui dire deux mots en particulier ?» fit Rabourdin en jetant à l'Excellence une œillade mystérieuse. Le ministre regarda la pendule et se dirigea vers la fenêtre où le suivit le pauvre chef. « Quand pourrais-je avoir l'honneur de soumettre l'affaire à votre Excellence ?» afin de lui expliquer le nouveau plan d'administration auquel se rattache la pièce que l'on doit entacher. « Un plan d'administration ?» dit le ministre en fronçant les sourcils et l'interrompant. « Si vous avez quelque chose en ce genre à me communiquer, attendez le jour où nous travaillerons ensemble. J'ai conseil aujourd'hui, je dois une réponse à la Chambre sur l'incident que l'opposition a élevé hier à la fin de la séance. Votre jour est mercredi prochain, nous n'avons pas travaillé hier, car hier, je n'ai pu m'occuper des affaires du ministère. Les affaires politiques ont nui aux affaires purement administratives. « Je remets mon honneur avec confiance entre les mains de votre Excellence, » dit gravement Rabourdin, « et je la supplie de ne pas oublier qu'elle ne m'a pas laissé le temps d'une explication immédiate à propos de la pièce soustraite. « Mais ne craignez donc rien, » dit des Lupeaulx en s'avançant entre le ministre et Rabourdin qui l'interrompit. « Avant 8 jours, vous serez sans doute nommé. » Le ministre se mit à rire en songeant à l'enthousiasme de des Lupeaulx pour Madame Rabourdin, et il guignait à sa femme qui sourit. Rabourdin, surpris de ce jeu muet, en chercha la signification, il cessa de tenir sous son regard le ministre un moment, et l'Excellence en profita pour se sauver. « Nous causerons ensemble de tout cela, » dit des Lupeaulx, devant qui le chef de bureau se retrouva seul, non sans surprise. « Mais n'en voulez pas à Dutoc, je vous réponds de lui. » « Madame Rabourdin est une femme charmante, » dit la femme du ministre au chef de bureau pour lui dire quelque chose. Les enfants regardaient Rabourdin avec curiosité. Rabourdin s'attendait à quelque chose de solennel et il était comme un gros poisson pris dans les mailles d'un léger filet. Il se débattait avec lui-même. « Madame la comtesse est bien bonne, » dit-il. « N'aurais-je pas le plaisir de la voir un mercredi ?» dit la comtesse. « Amenez-nous-la, vous m'obligerez. » « Madame Rabourdin reçoit le mercredi, » répondit des Lupeaulx qui connaissait la banalité des mercredis officiels. « Mais si vous avez tant de bonté pour elle, vous avez bientôt, je crois, une soirée intime. » La femme du ministre se leva contrariée. « Vous êtes le maître de mes cérémonies, » dit-elle à des Lupeaulx, paroles ambiguës par lesquelles elle exprima la contrariété que lui causait des Lupeaulx en entreprenant sur ces soirées intimes où elle n'admettait que des personnes de choix. Elle sortit en saluant Rabourdin. Des Lupeaulx et le chef de bureau furent donc seuls dans le petit salon où le ministre déjeunait en famille. Des Lupeaulx froissait entre ses doigts la lettre confidentielle que la Brière avait remise au ministre. Rabourdin la reconnut. « Vous ne me connaissez pas bien, » dit-il au chef de bureau en lui souriant. « Vendredi soir, nous nous entendrons à fond. En ce moment, je dois faire l'audience, le ministre me la laisse aujourd'hui sur le dos car il se prépare pour la chambre. Mais, je vous le répète, Rabourdin, ne craignez rien. » Rabourdin chemina lentement par les escaliers, confondu de la singulière tournure que prenaient les choses. Il s'était cru dénoncé par Dutoc et ne se trompait point. Des Lupeaulx avait entre les mains l'état où il était jugé si sévèrement, et des Lupeaulx caressait son juge. C'était à s'y perdre. Les gens droits comprennent difficilement les intrigues embrouillées, et Rabourdin se perdait dans ce dédale sans pouvoir deviner le jeu que jouait le secrétaire général. Où il n'a pas lu son article, où il aime ma femme. Telles furent les deux pensées auxquelles s'arrêta le chef en traversant la cour, car le regard qu'il avait saisi la veille entre Célestine et des Lupeaulx lui revint dans la mémoire comme un éclair. Pendant l'absence de Rabourdin, son bureau avait été nécessairement en proie à une agitation violente, car dans les ministères, les rapports entre les employés et les supérieurs sont si bien réglés que quand l'huissier du ministre vient de la part de son Excellence chez un chef de bureau, surtout à l'heure où le ministre n'est pas visible, il se fait de grands commentaires. La coïncidence de cette communication extraordinaire avec la mort de M. Labillardère donna d'ailleurs une importance insolite à ce fait que M. Saillard apprit par M. Clergeot et il vint en conférer avec son gendre. Bissieu, qui travaillait alors avec son chef, le laissa causer avec son beau-père et se transporta dans le bureau Rabourdin où les travaux étaient interrompus. Bissieu entrant. « Il ne fait guère chaud chez vous, messieurs. Vous ne savez pas ce qui se passe en bas? La vertueuse Rabourdin est enfoncée, oui, destituée. Une scène horrible chez le ministre. » Du toc, il regarde Bissieu. « Est-ce vrai ?» Bissieu. « À qui cela peut-il faire de la peine ? Ce n'est pas à vous, vous deviendrez sous-chef et du Bruel chef. Monsieur Baudoyer passe à la division. » Fleury. « Je gage 100 francs que Monsieur Baudoyer ne sera jamais chef de division. » Vimeux. « Je me mets dans le pari. Vous y mettez-vous, Monsieur Poiret ?» Poiret. « J'ai ma retraite au 1er janvier. » Bissieu. « Comment, nous ne verrons plus vos souliers à cordons et que deviendra le ministère sans vous ?»« Qui se met de mon pari ?» Du toc. « Je ne puis en être, je parierai à coup sûr. Monsieur Rabourdin est nommé, Monsieur de Labillardère l'a recommandé sur son lit de mort aux deux ministres en s'accusant d'avoir touché les émoluments d'une place dont le travail était fait par Rabourdin. Il a eu des scrupules de conscience et, sauf tout ordre supérieur, ils lui ont promis, pour le calmer, de nommer Rabourdin. » Bissieu. « Messieurs, mettez-vous tous contre moi. Vous voilà 7, car vous en serez, Monsieur Félion. Je parie un dîner de 500 francs au Rocher de Cancale que Rabourdin n'a pas la place de Labillardère. Ça ne vous coûtera pas 100 francs à chacun, et moi, j'en risque 500. Je vous fais la chouette, enfin. Ça va-t-il? En êtes-vous, du Bruel ?» Félion, posant sa plume. « Monsieur, sur quoi fondez-vous cette proposition aléatoire? Car aléatoire est le mot, mais je me trompe en employant le terme de proposition. C'est « contrat » que je voulais dire. Le pari constitue un contrat. » Fleury. « Non, car on ne peut donner le nom de contrat qu'aux conventions reconnues par le Code, et le Code n'accorde pas d'action pour le pari. » Du toc. « C'est le reconnaître que le proscrire. » Bissieu. « Ça, c'est fort, mon petit du toc. » Poiret. « Par exemple. » Fleury. « C'est juste, c'est comme se refuser au paiement de ses dettes, on les reconnaît. » Tuilier. « Vous faites de fameux jurisconsultes. » Poiret. « Je suis aussi curieux que M. Félion de savoir sur quelle raison s'appuie M. Bissieu. » Bissieu criant à travers le bureau. « En êtes-vous, du Bruel ?» Du Bruel apparaissant. « Sac à papier, messieurs, j'ai quelque chose de difficile à faire. C'est la réclame pour la mort de M. Labillardère. De grâce, un peu de silence, vous rirez et parirez après. » Juillet. « Rirez et parirez? Vous entreprenez sur mes calembours. » Bissieu allant dans le bureau de Du Bruel. « C'est vrai, Du Bruel, l'éloge du bonhomme est une chose bien difficile. J'aurais plutôt fait sa charge. » Du Bruel. « Aide-moi donc, Bissieu. » Bissieu. « Je veux bien, quoique ces articles-là se fassent mieux en mangeant. » Du Bruel. « Nous dînerons ensemble. » Lisons. « La religion et la monarchie perdent tous les jours quelques-uns de ceux qui combattirent pour elle dans les temps révolutionnaires. » Bissieu. « Mauvais. » Je mettrai « La mort exerce particulièrement ses ravages parmi les plus vieux défenseurs de la monarchie et les plus fidèles serviteurs du roi dont le cœur saigne de tous ses coups. » Du Bruel écrit rapidement. « Monsieur le baron Flammé de Labillardère est mort ce matin d'une hypotrisie de poitrine causée par une affection au cœur. Vois-tu, il n'est pas indifférent de prouver que l'on a du cœur dans les bureaux. Faut-il couler là une petite tartine sur les émotions des royalistes pendant la terreur ? Hein, ça ferait pas de mal. Mais non, les petits journaux diraient que les émotions ont plus frappé sur les intestins que sur le cœur. N'en parlons pas. Qu'as-tu mis ? Du Bruel lisant. Issu d'une vieille souche parlementaire ? Bissieu. Très bien cela. C'est poétique et souche est profondément vrai. Du Bruel continuant. Où le dévouement pour le trône était héréditaire, aussi bien que l'attachement à la foi de nos pères, monsieur de la Billardère, Bissieu. Je mettrai monsieur le baron. Du Bruel. Mais il ne l'était pas en 1793. Bissieu. C'est égal. Tu sais que sous l'Empire, Fouché, rapportant une anecdote sur la Convention et dans laquelle Robespierre lui parlait, la contait ainsi. Robespierre me dit, duc d'Otrante, vous irez à l'hôtel de ville. Il y a donc un précédent. Du Bruel. Laisse-moi noter ce mot-là. Mais ne mettons pas le baron, car j'ai réservé pour la fin les faveurs qui ont plu sur lui. Bissieu. Ah bien, c'est le coup de théâtre, le tableau d'ensemble de l'article. Du Bruel. Voyez-vous. En nommant monsieur de la Billardère, baron, gentilhomme ordinaire. Bissieu à part, très ordinaire. Du Bruel continuant. De la chambre, etc. Le roi récompensa tout ensemble les services rendus par le prévôt, qui sut concilier la rigueur de ses fonctions avec la mansuétude ordinaire au Bourbon, et le courage du Vendéen, qui n'a pas plié le genou devant l'idole impériale. Il laisse un fils héritier de son dévouement et de ses talents, etc. Bissieu. N'est-ce pas trop monté de ton, trop riche de couleurs? J'éteindrai un peu cette poésie, l'idole impériale, plier le genou, diable. Le vaudeville gâte la main, et l'on ne sait plus tenir le style de la pédestre prose. Je mettrai, il appartenait au petit nombre de ceux qui, etc. Simplifie, il s'agit d'un homme simple. Du Bruel, encore un mot de vaudeville, tu ferais ta fortune au théâtre, Bissieu. Bissieu, qu'as-tu mis sur Quiberon? Il lit. Ce n'est pas cela. Voilà comment je rédigerai. Il assuma sur lui, dans un ouvrage récemment publié, tous les malheurs de l'expédition de Quiberon, en donnant ainsi la mesure d'un dévouement qui ne reculait devant aucun sacrifice. C'est fin, spirituel, et tu sauves la Billardère. Du Bruel, au dépens de qui? Bissieu, sérieux comme un prêtre qui monte en chair. De Hoche et de Tallien, tu ne sais donc pas l'histoire? Du Bruel, non, j'ai souscrit à la collection des Baudouins, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Il n'y a pas de sujet de vaudeville là-dedans. Félion à la porte. Nous voudrions tous savoir, monsieur Bissieu, qui peut vous inciter à croire que le vertueux et digne monsieur Rabourdin, qui fait l'intérim de la division depuis 9 mois, qui est le plus ancien chef de bureau du ministère, et que le ministre, au retour de chez monsieur de la Billardère, a envoyé chercher par son huissier, ne sera pas nommé chef de division. Bissieu. Papa Félion, vous connaissez la géographie? Félion se rengorgeant. Monsieur, je m'en flatte. Bissieu. Histoire? Félion d'un air modeste. Peut-être. Bissieu le regardant. Votre diamant est mal accroché, il va tomber. Eh bien, vous ne connaissez pas le cœur humain. Vous n'êtes pas plus avancé là-dedans que dans les environs de Paris. Poiré, bas à Vimeux. Les environs de Paris.
Je croyais qu'il s'agissait de monsieur Rabourdin.
Bissieu. Le bureau Rabourdin parie-t-il en masse contre moi?
Tous.
Oui! Bissieu. Du Bruel, en es-tu? Du Bruel. Je crois bien. Il est dans notre intérêt que notre chef passe. Alors chacun dans notre bureau avance d'un cran. Tuilier. D'un crâne. Bas à Félion. Et je lis celui-là. Bissieu. Je gagerai. Voici ma raison. Vous la comprendrez difficilement, mais enfin, je vous la dirai tout de même. Il est juste que M. Rabourdin soit nommé. Il regarde du toc. Car en lui, l'ancienneté, le talent et l'honneur sont reconnus, appréciés et récompensés. La nomination est même dans l'intérêt bien entendu de l'administration. Félion, Poiré et Tullier écoutent, sans rien comprendre, et sont comme des gens qui cherchent à voir clair dans les ténèbres. Eh bien, à cause de toutes ces convenances et de ces mérites, en reconnaissant combien la mesure est équitable et sage, je parie qu'elle n'aura pas lieu. Oui, elle manquera comme ont manqué les expéditions de Boulogne et de Russie, où le génie avait rassemblé toutes les chances de succès. Elle manquera, comme manque ici-bas, tout ce qui semble juste et bon. Je joue le jeu du diable. Du Bruel. Qui donc sera nommé? Bissieu. Plus je considère Baudoyer, plus il me semble réunir toutes les qualités contraires. Conséquemment, il sera chef de division. Du Toc, poussé à bout. Mais M. Deslupeaux, qui m'a fait venir pour me demander mon charlet, m'a dit que M. Rabourdin allait être nommé et que le petit la Billardère passait référendaire au sceau. Bissieu. Nommé, nommé. La nomination ne se signera seulement pas dans 10 jours. On nommera pour le jour de l'an. Tenez, regardez votre chef dans la cour et dites-moi si ma vertueuse Rabourdin a la mine d'un homme en faveur. On le croirait destitué. Fleury se précipite à la fenêtre. Adieu, messieurs, je vais aller annoncer à M. Baudoyer votre nomination de M. Rabourdin. Ça le fera toujours enrager, le saint homme. Puis je lui raconterai notre pari pour lui remettre le cœur. C'est ce que nous nommons au théâtre une péripétie, n'est-ce pas, Du Bruel? Qu'est-ce que cela me fait? Si je gagne, il me prendra pour sous-chef. Il sort. Poiré. Tout le monde accorde de l'esprit à ce monsieur, eh bien moi je ne puis jamais rien comprendre à ses discours. Il expédie toujours. Je l'écoute, j'entends des paroles et ne saisis aucun sens. Il parle des environs de Paris à propos du cœur humain et... Il pose sa plume et va au poil. Dit qu'il joue le jeu du diable à propos des expéditions de Russie et de Boulogne. Il faudrait d'abord admettre que le diable joue et savoir quel jeu. Je vois d'abord le jeu de domino. Il se mouche. Fleury interrompant. Il est 11 heures. Le père Poiré se mouche. Dubruel. C'est vrai déjà, je cours au secrétariat. Poiré. Où en étais-je? Tuilier. Domino, au seigneur, car il s'agit du diable et le diable est un suzerain sans charte. Mais ceci vise plus à la pointe qu'au calembour. Ceci est le jeu de mots. Au reste, je ne vois pas de différence entre le jeu de mots et... Sébastien entre pour prendre les circulaires à signer et à collationner. Vimeux. Vous voilà, beau jeune homme. Le temps de vos peines est fini, vous serez appointé. Monsieur Rabourdin sera nommé. Vous étiez hier à la soirée de Madame Rabourdin? Êtes-vous heureux d'aller là? On dit qu'il y a des femmes superbes. Sébastien. Je ne sais pas. Fleury. Vous êtes aveugle? Sébastien. Je n'aime point à regarder ce que je ne saurais avoir. Félion enchanté. Bien dit, jeune homme. Vimeux. Vous faites bien attention à Madame Rabourdin, que diable! Une femme charmante. Fleury. Bah, des formes maigres. Je l'ai vue aux Tuileries, j'aime bien mieux persiller la maîtresse de ballet, la victime à Castin. Félion. Mais qu'a de commun une actrice avec la femme d'un chef de bureau? Dutoc. Toutes deux jouent la comédie. Fleury regardant Dutoc de travers. Le physique n'a rien à faire avec le moral, et si vous entendez par là que... Dutoc. Moi, je n'entends rien. Fleury. Celui de tous les employés qui sera fait chef de bureau, voulez-vous le savoir? Tous. Dites. Fleury. C'est Colville. Tuilier. Pourquoi? Fleury. Madame Colville a fini par prendre le plus court, le chemin de la sacristie. Tuilier sèchement. Je suis trop l'ami de Colville pour ne pas vous prier, monsieur Fleury, de ne pas parler légèrement de sa femme. Félion. Jamais les femmes qui n'ont aucun moyen de défense ne devraient être le sujet de nos conversations. Vimeux. D'autant plus que la jolie madame Colville n'a pas voulu recevoir Fleury et qu'il la dénigre par vengeance. Fleury. Elle n'a pas voulu me recevoir sur le même pied que Tuilier, mais j'y suis allé. Tuilier. Quand? Où? Sous ses fenêtres? Quoique Fleury fût redouté dans les bureaux pour sa crânerie, il accepta silencieusement le dernier mot de Tuilier. Cette résignation qui surprit les employés avait pour cause un billet de 200 francs d'une signature assez douteuse que Tuilier devait présenter à Mademoiselle Tuilier, sa sœur. Après cette escarmouche, un profond silence s'établit. Chacun travailla de 1 heure à 3 heures. Dubruel ne revint pas.